Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui, grâce à ses années de la maison de Savoie, est devenu un expert en système d'encaissement. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel. Ouais, je me suis bien pris la tête sur le sujet, mais à l'époque, je n'avais pas la chance de connaître notre invité du jour qui m'aurait bien simplifié la vie d'ailleurs.
Bah justement Philibert, aujourd'hui nous allons parler du digital au service des commerçants et plus particulièrement des restaurateurs. Notre invité a fondé une entreprise qui a bouleversé les marchés de la caisse enregistreuse traditionnelle en inventant une alternative digitale avec une forte capacité d'analyse des données. Nous sommes aujourd'hui avec Dimitri Faber, cofondateur des Tiller. Bonjour Dimitri.
Bonjour à tous.
Dimitri, il y a un peu plus de 2 mois, tu as observé, nous tous, hein, la majorité de tes clients qui ont dû fermer leurs portes suite au décret du gouvernement. On voudrait comprendre aujourd'hui comment tu as vécu cette période et comment tu vois l'évolution des choses pour la suite. Donc du coup, pour démarrer, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement au début de cette crise et est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as vécu les premiers jours des confinements et l'impact sur ton activité?
Alors effectivement, c'est un sujet où aujourd'hui on commence à voir la fin, même si pour le milieu de la restauration, la fin en tout cas de cette crise n'est pas encore là. Nous, on a eu la chance, on a des bureaux en France, Espagne, Italie, donc on a eu de la chance de voir la crise d'abord en Italie, où elle a commencé. Donc l'Italie avait quelques semaines, 2 à 3 semaines d'avance sur la France et sur l'Espagne. Donc on a rapidement pu voir ce qui se passe et appliquer ce qui se passait justement sur les autres pays. Ce qui s'est passé très concrètement, ce qu'on a pu observer, c'est une chute drastique dès le premier jour de fermeture du nombre d'établissements ouverts, de restaurations ouverts et du nombre de commandes. Donc pour voilà, nous on a les données qui passent par notre système, donc on sait quels restaurants sur une base de à peu près 10 000 restaurants sont ouverts, sont fermés, quel volume de commandes ils font au global.
Ouais, tu vois ça en temps réel, c'est génial comme information. Enfin, c'est génial. Ouais. L'information est horrible, hein, la fermeture de restaurant, mais le fait que toi, t'aies ces données, c'est super intéressant.
Ouais, et on a pu pas mal l'utiliser. Et donc, l'avantage à travers la caisse, c'est que tout passe par la caisse, que ce soit la livraison, le click and collect, mais aussi les ouvertures traditionnelles. Mm-hmm. Et on voit, on est passé de à peu près 100% de clients ouverts la semaine du 7-8 mars, si je me trompe pas, ouais, à moins de 8% à partir du lundi après le confinement en France. Donc, et sur ces 8%, on a à peu près, donc il y en avait 80% qui étaient ouverts soit en click and collect, soit en livraison, et 20%, on va dire, qui étaient les derniers rebelles, ou en tout cas ceux qui n'avaient pas encore eu la possibilité de tout implémenter, tout mettre en place, qui étaient encore ouverts pour des commandes normales.
Et ça, c'est un point qui est vachement important parce que ça, je n'avais pas compris. Ton système, il permet de gérer aussi la partie online, la partie click and collect ou la livraison. C'est intégré à ton outil, donc ça connecte le off et le on.
Ouais, si tu veux, en fait, nous notre vrai métier, donc on vend une caisse enregistreuse, entre guillemets, mais notre vrai métier, c'est pas ça. Notre vrai métier, c'est un peu, on a la vision de proposer un écosystème pour les restaurateurs, pour leur proposer d'intégrer toutes leurs solutions. Nous, notre vrai métier derrière, c'est la gestion, l'analyse de données. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on propose la caisse enregistreuse, c'est un peu notre produit central.
Physique, mais à travers ça,
physique dans le magasin, sur iPad, voilà. Et en fait, on va proposer aux restaurateurs d'intégrer un ensemble de services à cette caisse justement. Et donc ces services, c'est aujourd'hui en grande partie des services de livraison, donc des Deliveroo, des Uber Eats, des Deliveract, etc. Mais aussi des services de click and collect comme il existe sur le marché.
D'accord. Donc toi, tu as pu observer la forte hausse de la livraison et du click and collect chez les restaurants depuis le début de la crise.
Ouais, il a été assez progressif sur la partie click and collect. Je pense qu'il faut, en tout cas eux, les restaurateurs ont bien séparé la partie livraison, donc Uber Eats, Deliveroo et les autres, et la partie click and collect où c'était plus eux-mêmes qui devaient faire la communication autour de leur établissement, qui devaient pousser. Ouais. Et quand on regarde un peu les chiffres de ce qui s'est passé, on voit que sur les 2 premières semaines, il y a eu une hausse assez timide du volume de commandes en click and collect, en livraison. Mmh. Pourquoi ? Parce que la plupart des restaurateurs qu'on a interviewés, avec lesquels on a travaillé, se sont dit « Ok, stop, il y a un problème, il se passe quelque chose, je vais un peu réfléchir à ce qui se passe, je vais réfléchir à comment le mettre en place, et on va pouvoir ensuite mettre en place des solutions. Et à partir de la troisième semaine de confinement, entre guillemets, ils ont vraiment commencé et on a vu un pic des ventes, non seulement en livraison, mais surtout en click and collect. Et c'est là où il y a eu le plus fort impact.
Et juste une question, Dimitri, pour qu'on comprenne bien et nos auditeurs aussi. Les modèles de Tiller, c'est un modèle par abonnement, en fait. Donc aujourd'hui, tu viens facturer un abonnement mensuel à tes clients, c'est ça ?
Ouais, alors effectivement, pour revenir à Tiller, donc nous, on est un écosystème de solutions, ce qu'on dit pour restaurateurs, qui ont trois parties. Une partie qui est une caisse enregistreuse sur iPad, simple, intuitive, qu'on essaie la plus efficace possible, et qui est couplée à une plateforme de gestion. Donc en fait, ça va être un back-office, une plateforme où le restaurateur va pouvoir accéder en temps réel et à distance à ses données de vente, à sa performance, par canal justement, aux produits qui marchent le mieux, à ceux qui marchent le moins bien, aux horaires les plus performants, etc. Ça, c'est notre cœur produit qu'on vend effectivement sous forme d'abonnement. Et à ça, on rajoute un troisième onglet, entre guillemets, qui est une marketplace de services avec un peu plus de 60 intégrations, que ce soit dans du paiement, de la feed, de la livraison, du click and collect, etc.
D'accord. Et du coup, quel est l'impact sur ton chiffre d'affaires ? Parce que si c'est un système d'abonnement, si les restaurateurs ils font du chiffre ou pas, ça n'impacte pas forcément ton chiffre à toi.
Alors effectivement, on a eu un impact sur notre chiffre parce que voilà, certains restaurateurs ne pouvaient plus payer,
bien sûr.
Voilà, certains ont fermé parce qu'on a toujours parlé du fait qu'il n'y avait pas de faillite, que l'État, qu'on allait tout faire avec le chômage partiel, etc. N'empêche qu'il y en a eu. J'ai pas les chiffres exacts, mais
effectivement. Ouais, l'ordre de grandeur, parce que c'est vrai que pour le coup aujourd'hui c'est un sujet qui est assez opaque, on ne sait pas du tout. Toi, tu as déjà observé des faillites de restaurateurs ?
Non, alors oui, au cas par cas, mais pas sur les chiffres. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une grande partie, en tout cas aujourd'hui, la moitié de nos restaurateurs sont fermés et on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont fermé définitivement, malheureusement, ou si c'est juste une fermeture parce qu'ils n'ont pas décidé de mettre du click and collect ou de la livraison. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on saura dans quelques temps quand ils ne renouvelleront pas leurs abonnements parce que c'est du mensuel pour beaucoup. Mais non, j'ai malheureusement pas le chiffre de l'impact que ça a eu sur les fermetures définitives.
De toute façon, pour le moment, personne ne le sait encore sur ça. J'en profitais. Peut-être que toi, tu as eu des signaux faibles, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On va attendre, du coup, la reprise et la fin des aides, le chômage partiel, où là, malheureusement, ceux qui seront obligés se déclareront faillite, ou au moins en procédure collective.
Et juste avant de parler de la réouverture, Philibert, je voulais juste, parce que Dimitri a partagé des informations intéressantes par rapport au pourcentage des restaurants qui étaient ouverts. Donc, tu disais, Dimitri, en tout début des crises, tu avais autour de 8%. Et avant l'enregistrement, tu m'as envoyé un petit mail avec un tableau où on voit une évolution, en fait, dès la fin mars, où on avait 15% des restaurants ouverts. Et là, la semaine dernière, on était autour de 54%. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de restaurateurs qui ont repris leur activité. Évidemment, pas service en salle, mais plutôt sur du click collect et la livraison.
Ouais, en fait.
Juste une dernière question par rapport à ça. Et sur les volumes parce que tu as une visibilité, je suppose, sur les nombres des commandes, tu arrives à estimer qu'est-ce que ces business-là représentent par rapport à leur chiffre d'affaires d'habitude, à leur volume des commandes habituelles ?
Alors. C'est une bonne question. Effectivement, quand ce que je t'ai envoyé, ça montre la part de nos restaurants qui étaient déjà ouverts au début de l'année, qui sont ouverts progressivement. Donc, ça passe de 15 à 29% fin avril à aujourd'hui plus de 50, un peu plus de 54%. Même aujourd'hui, ce qu'on voit en termes de, donc ça, c'est que pour la France, ce qu'on voit en termes de volume de commandes, c'est qu'on est en moyenne autour de 50% du volume habituel qu'ils avaient entre janvier et février. On a tiré une moyenne.
Aujourd'hui, tu dis que les restaurants qui ont ouvert et qui font du coup que de la livraison ou du click and collect, ils font déjà 50% de leur chiffre d'affaires.
En tout cas, sur ceux qui sont ouverts et sur les commandes, en moyenne, oui, en France.
Ça paraît énorme. Parce qu'on parle beaucoup, nous, on a évidemment échangé avec beaucoup de restaurateurs dans ce podcast. Beaucoup nous disent, bon, c'est super, on a lancé la livraison au click and collect, ça permet de redynamiser les équipes, de remettre les gens au boulot, mais ça représente 10, maximum 15% du chiffre d'affaires. Toi, dans les stats que tu observes, mais après, c'est un peu biaisé, parce que comme tu le dis, c'est des gens qui le faisaient vraiment déjà avant, c'est plutôt quasiment 50%. Donc, ce serait plutôt une bonne nouvelle.
Moi, c'est 50%. Alors après, dans les 50%, tu as tous les chiffres qui viennent d'Uber Eats, tout ce qui vient de Deliveroo, ouais, tout ce qui vient de toutes ces plateformes. Donc, c'est pas du revenu net. Donc, c'est-à-dire qu'à ça, si par exemple, un restaurateur, voilà, c'est ça, s'il fait 50% ou elle fait 50% de son chiffre d'affaires sur Uber Eats, bah, il faut enlever les 20 à 30% de commission dessus. Donc, nous, on n'a pas cette, on va pas jusqu'à cette information. On n'a pas le taux de commission que les partenaires prennent, ce qui serait intéressant d'avoir. Mais voilà. Donc, globalement, on est à des niveaux entre 40 et 50% pré-crise, avec notamment une différenciation à Paris où on est un peu plus de 50%. Donc, on est à 53%. Et reste de la France, entre guillemets, où on est plutôt à 42%.
Juste une question par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice d'aller dans les détails et voir, par exemple, les restaurants qui, avant la crise, ne proposaient pas des livraisons et qui se sont mis à faire de la livraison. Est-ce que tu connais le pourcentage de chiffre d'affaires pour eux? Ou c'est peut-être un peu trop détaillé, ça?
Non, on n'est pas rentré dans ce niveau. Après, c'est le pic quand même de restaurants qui passent et qui faisaient pas de la livraison et qui sont passés à ça, il est arrivé plutôt à partir du 10-11 mai, donc à partir du déconfinement, où nous, on voit dans la part de nos restos ouverts un passage de 32,9% de restos ouverts à plus de 50% déjà. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est allé assez vite. Après, c'est relativement intéressant de le voir en termes de sur l'ensemble des commandes qu'on a chez Tiller, quelle est la part qui sont en livraison et quelle est la part qui est en click and collect. Et donc on voit par exemple 2 semaines après le début du confinement que 85% des commandes qui sont passées par Tiller venaient des plateformes de livraison, et 15% qui venaient du click and collect. Donc ça, on va dire, c'est surtout des restaurants qui avaient déjà l'habitude de le faire, et c'est à peu près la répartition qu'on a habituelle. Aujourd'hui, on est à peu près à 60% qui sont en livraison et 40% en click and collect. Et ça, depuis 2 semaines. Donc, en fait, ce qu'on a vu et ce qui est assez impactant, c'est que depuis le 11 mai et depuis le début du confinement dans certaines zones, c'est vraiment les nouveaux restaurateurs qui se sont ouverts. Ils se sont ouverts en click and collect, la majorité, et pas forcément sur de la livraison et sur des canaux classiques, parce que comme ce que tu disais avant, ça leur coûte trop cher.
Si on parle un peu maintenant de la réouverture, même si donc on voit, elle a commencé d'une certaine forme, si on parle vraiment de la réouverture totale, c'est-à-dire le fait de pouvoir accueillir du public en salle, comment vous la voyez, comment vous l'anticipez chez Tiller? On parle de plusieurs dates. Alors je sais que le Premier ministre va s'exprimer bientôt pour clarifier ça, mais comment vous l'anticipez, comment vous organisez, ce que vous mettez en place pour accompagner les restaurants dans cette phase de réouverture?
Alors, effectivement, pas mal de choses qui doivent être aidées. Alors après, nous on est parti du principe de se dire, on va essayer de, le plus important dans ces moments, c'est l'information. Donc on a fait comme pas mal de tracteurs, d'ailleurs on l'a fait ensemble, on a créé une page avec des ressources autour du Covid. On fait partie pas mal de syndicats, d'associations, donc on est allé, j'irai pas faire du lobbying, mais vraiment assister auprès des pouvoirs publics pour essayer d'avoir de l'information, en tout cas. Et savoir ce qui se passe vraiment, parce que ça a toujours été un flou.
Clairement, pour tout le monde, ouais.
Ouais, pour tout le monde. Donc voilà, on a essayé d'être le plus proche possible des acteurs qui avaient l'information.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez pas
eu l'info? Alors, ça a donné pas grand-chose.
C'est ce que tout le monde nous dit,
Pas grand-chose, malheureusement. Je pense que tout le monde est dans le flou, même les pouvoirs publics, malheureusement. Donc oui, ça nous permet d'avoir un peu d'informations en amont, mais voilà, qui est pas forcément impactante. Et après, on a essayé d'organiser le plus de webinars, le plus de talks, le plus d'events, et notamment avec la Frégate, je sais qu'on allait en parler après, pour travailler sur des sujets très concrets. Et je pense que pendant cette période, pour un restaurateur, et je le sais parce que j'ai un resto aussi avec des copains, et j'ai investi dans plusieurs restos, et j'ai pas mal, je connais, maintenant je suis dans le milieu, moins que vous, mais je commence à connaître un peu le milieu. Mais en tout cas, il y a des sujets qui sont essentiels, c'est tous les sujets légaux, et tous les sujets RH. Et ça, c'est quelque chose, en tant que restaurateur, oui, c'est souvent le comptable ou le cabinet qui faisait la partie RH. Ben là, on a essayé de trouver les bons partenaires pour les accompagner sur le chômage partiel, sur des licenciements s'il faut, etc. Sur la communication, sur les réseaux sociaux. Voilà, plein d'acteurs qui sont besoin et plein de solutions. Et en fait, on est plutôt parti du principe de leur apporter des solutions via des partenaires et de les aider à trouver les bonnes solutions.
Ça, vous avez fait comment? C'est du contact one-to-one, ou c'est que vous avez créé des contenus, des newsletters, où vous envoyez ces informations, des tutos, des vidéos?
Ouais, on a fait. Alors c'est un mix. On a fait pas mal de d'articles de blog, de posts, de vidéos qu'on a mis sur notre site, qu'on a partagé. On a aussi partagé des ressources qui existaient déjà. On a fait pas mal d'interventions avec la Frégate. Pareil sur des sujets assez précis, donc sur des sujets légaux, sur les sujets RH, les sujets com. On a fait intervenir un peu des experts ou ce qu'on considérait des experts sur ces sujets. Donc ça, pareil, on a fait des lives Instagram, des lives Facebook, on a essayé de rendre ça accessible. Et après, pareil, des newsletters qui regroupent un peu toutes ces informations, parce que moi, je suis assez convaincu, et j'ai vu, c'est que un gros risque pendant cette période, c'est aussi d'avoir trop d'informations et de pas savoir ce qu'il faut faire, comment on fait, qui on contacte. Donc voilà, on a essayé de prioriser ça et de les garder ensemble.
Et justement, Dimitri, tu as fait référence à la Frégate. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la Frégate est un incubateur des restaurants ou des projets de restauration que vous avez lancé au sein des Tillières il y a quelques années. Comment tu vois l'impact de la crise sur cette nouvelle génération des restaurateurs? Tu penses que les gens vont peut-être avoir un peu peur de se lancer dans l'industrie, ou justement, ça va peut-être attirer un nouveau profil des restaurateurs ou peut-être une nouvelle typologie des projets par la suite? Quelle est la vision que vous avez par rapport à tout ça?
Alors, je peux pas te donner une vision chiffrée parce que je l'ai pas encore. Je sais pas combien de gens vont postuler à la nouvelle saison de la Frégate. Est-ce que ça va mettre un coup ou pas? Ce que je sais, c'est que effectivement, mais ça on le savait tous, que la restauration c'est un métier difficile. C'est un métier qui peut rapporter, mais qui rapporte pas forcément. Enfin voilà, si on fait ce métier, on le fait aussi beaucoup pour le lien social que ça crée, pour voilà le vrai côté proximité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va revenir, et j'ai des exemples dans le sens où des gens qui avaient cette crise leur a fait un peu redécouvrir l'impact qu'ils peuvent avoir au quotidien et ce qu'ils ont envie de faire. Et donc je pense qu'il y a pas mal, il va y avoir un peu un retour à la terre entre guillemets, de se dire voilà, il y a des gens qui vont avoir envie de repartir un peu dans ce cycle. Et j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était un peu ce qui s'était passé en 2008. Après un peu la crise mondiale, des traders, des financiers, etc., même des consultants qui se sont dit voilà, j'ai envie de retourner à quelque chose plus autour de l'économie réelle.
Ouais.
Donc ça, je pense qu'il va y avoir. Après, il va néanmoins y avoir un impact fort sur les fermetures, sur le risque, sur les prêts potentiellement que les banques vont accorder pour racheter des fonds de commerce, pour ouvrir. Donc, in fine, si on regarde la restauration, en tout cas nous, depuis qu'on a lancé, le nombre de clients reste assez constant. Enfin, le nombre de restaurants en France reste assez constant parce qu'il y a un fort renouvellement. Et je pense que ça va se maintenir et que ce lien, enfin cette volonté de créer un lien social des entrepreneurs qui vont vouloir aller ouvrir des nouveaux établissements, pas forcément dans les grandes villes, sera compensé avec ceux qui vont fermer ou ceux qui vont en avoir marre et aller autre part, quoi.
Parce qu'on enregistrait un podcast la semaine dernière avec Raphaël Marchal, qui est journaliste culinaire en Rondognon, qui connaît bien l'univers de la restauration. Et justement, on lui posait la question sur sa vision de la restauration, notamment à Paris. Et elle, son avis, mais après, elle prenait évidemment beaucoup de pincettes. Elle disait certainement, peut-être qu'à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants aujourd'hui et que cette crise-là va peut-être créer une espèce de sélection. Elle s'attend à ce que, comme on le disait tout à l'heure, il y ait des fermetures et il y aura une sélection. Certains restaurants un peu plus fragiles qui sont moins dans les, qui répondent moins aux attentes des consommateurs. Mais après, il faut les définir. Tout ce qu'elles vont peut-être évoluer avec cette crise. Ouais. Donc, elle pensait, mais c'est, voilà, moins experte que toi peut-être sur ce niveau-là, que on allait observer une contraction du nombre de restaurants, au moins dans les grandes agglomérations. Toi là-dessus, toi, t'as pas d'avis.
J'ai pas de vision. Ouais. Moi, j'aime bien parler avec les chiffres, mais je suis assez d'accord. Je pense que Paris, c'est un écosystème assez fort. Et moi, ce que j'entends souvent de mes clients ou des partenaires, c'est que les restaurants qui marchaient bien et qui allaient bien avant la crise vont continuer à marcher. Et au contraire, après la crise, il y aura un élan de solidarité. Ils vont continuer à se développer. Je pense à un de nos clients avec qui on travaille pas mal, qui est Olibelli, qui bien sûr c'est difficile et il faut trouver des choses. Il a pas encore réouvert, mais voilà, il y a une telle communauté forte et ça marchait tellement bien avant que ça va reprendre. J'ai aucun doute dessus. Par contre, effectivement, tous les restaurants qui soit avaient pas vraiment de communauté, soit c'était pas digitalisé ou réinventé, soit marchaient pas tout simplement avant la crise, eux à mon avis vont pas forcément reprendre aussi rapidement.
C'est horrible, mais c'est ce qu'on dit, il va y avoir une espèce de sélection naturelle qui fait que ces établissements qui étaient fragiles avant la crise vont peut-être plus disparaître.
Okay. Malheureusement, c'est sûr. Ouais.
Et en même temps, c'est un peu triste, mais c'est un peu comme tout. Et dans cette crise, on l'a vu, ça crée aussi des opportunités. Et donc, même dans la restauration, pour une nouvelle génération de restaurateurs, il y aura des opportunités concrètes, comme accès à des fonds de commerce à des prix peut-être moins importants. Ouais. Et donc, du coup, voilà, tu faisais référence à la passion de ces métiers-là et les gens qui sont passionnés et que peut-être qu'il aura un impact sur les court terme, mais les gens vont continuer à vouloir les faire parce que c'est créer des liens sociaux. C'est proposer quelque chose qui vient du cœur. Moi, j'ai un exemple concret par rapport à la frégate, c'est que je suis investisseur dans un projet des restaurants avec un ancien incubé de la frégate.
Okay.
Et il était en pleine recherche des fonds de commerce juste avant la crise. Évidemment, tout est en stand-by. Hein. On a peut-être décalé les lancements à 2021, mais il va lancer les projets. Il va mettre ça en stand-by, il va s'en réinventer pendant 12 mois pour revenir plus fort par la suite. Donc, je pense que c'est une période difficile. Mais la passion par la restauration, elle ne va pas disparaître.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un métier, c'est pas un secteur dans lequel on rentre pour gagner beaucoup d'argent ou pour. Enfin, et je pense qu'au contraire, tu vois, c'est là la crise, elle commence à faire prendre conscience à pas mal de monde que ben voilà, il faut potentiellement retourner dans l'économie réelle, avoir un vrai contact, un lien social, comme tu disais avant. Et ça. Je pense que ça va encourager encore plus certaines personnes qui hésitaient à franchir le pas, que ce soit de déménager dans une plus petite ville, que ce soit d'ouvrir leur établissement. Ça, plus la vision de se dire « j'ai envie de vraiment contribuer à ce lien social, à ce tissu économique », plus la possibilité aussi, il faut se le dire malheureusement, d'avoir des fonds de commerce qui vont coûter moins cher.
Ouais.
Tout ça mis bout à bout, ça va amener une nouvelle génération de restaurateurs. Le risque que je vois et qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une génération, on va dire, plus traditionnelle, qui est aujourd'hui le socle des restaurants en France, qui, elle, va avoir un peu plus de difficultés à sortir de cette période.
À se réinventer. On en a déjà parlé, mais c'est intéressant d'avoir ta vision plus globale sur la reprise et dans les mois à venir et de voir, toi, quelles leçons tu tires déjà de cette crise. Et d'ailleurs, l'exemple, c'est, vu qu'aujourd'hui, tu gères cet incubateur frégate, qu'est-ce que tu dirais à un porteur de projet encore un peu jeune dans sa réflexion? Tu dirais d'aller vers quoi aujourd'hui si on doit monter un nouveau restaurant demain?
Alors, moi, je lui dirais de pas faire ce que je fais. Moi, j'ai monté un resto qui s'est planté, mais moi, je sais pourquoi. Donc voilà, de pas suivre ça. Non, mais blague à part, je leur dirais de continuer parce que si on se lance dans ce métier, c'est vraiment par passion. Ça, il y a aucun doute derrière. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc du coup, moi, je pense qu'on va assister. Et je l'ai déjà vu dans certaines personnes qui m'ont contacté, qui regardent pour la frégate. C'est il y a presque une dimension philosophique derrière, pardon, de se dire voilà, j'ai envie de contribuer. Et j'ai envie de faire quelque chose. Donc, pour moi, la restauration va aller vers ça. Et donc, on va assister potentiellement à des concepts plus individualisés, à des concepts très locaux. J'ai par exemple là un de mes plus gros clients qui s'appelle Spock. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais, à Marseille. Enfin, la restauration rapide à Marseille, même plus.
Voilà. Ouais, ils en ont une quarantaine maintenant, un peu partout en France. Ouais. Et eux, la crise, je discutais avec eux l'autre jour, ça a été un vrai déclencheur. Ils étaient déjà vachement en avant sur Révolution, mais déclencheur sur la consommation de proximité, sur le non-gaspillage, sur acheter, se fournir que en produits locaux pour chaque région, faire vraiment des spécialités. Et pour moi, on va aller, en tout cas, c'est ce type de restauration qui va pouvoir se réinventer, de se dire, voilà, il faut changer la manière de faire, il faut potentiellement passer par des circuits courts, des nouveaux moyens de communiquer avec les clients, des réseaux sociaux, du click and collect, une nouvelle expérience en ligne, mais aussi dans les établissements. Et je suis assez persuadé que c'est ces nouveaux types de restos et d'établissements qui, eux, vont vraiment, vraiment marcher.
Juste une question, Dimitri, par rapport à l'activité donc Tiller. Tiller, ça quand même a eu une croissance incroyable ces dernières années. Vous avez levé pas mal d'argent avec des ambitions importantes des croissances et de recruter de plus en plus des commerçants sur la plateforme. Est-ce que cette crise a un impact sur vos ambitions? Est-ce que vous allez peut-être réduire certains objectifs ou vous allez arriver à ces objectifs qui étaient quand même assez ambitieux?
C'est une bonne question. Alors nous, un peu avant la crise, mais alors on le voyait pas venir, hein, je vais pas te dire qu'on voyait ce qui allait se passer, c'était impossible à voir, mais on avait déjà un peu shifté de vision, on avait changé un peu ou adapté la vision de se dire voilà, on a envie de continuer à faire de l'hypercroissance à n'importe quel prix, à recruter des centaines de personnes, etc., En fin d'année dernière, on avait déjà la vision de se dire qu'on avait, on allait se donner 12 mois pour rentabiliser la boîte, parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire en tant qu'entrepreneur, en tant que, voilà, on a plus de 100 personnes dans l'équipe, on avait vraiment envie de faire ça. Et donc, la crise, c'est un peu venu renforcer ça et peut-être accélérer la transition. Mais en tout cas, oui, notre ambition, elle a pas changé dans le sens où on a envie de continuer à croître, à avoir des restaurateurs, des commerçants dans notre communauté, entre guillemets, à continuer à leur proposer des services à valeur ajoutée, en croissant, en ayant une croissance très très forte, mais pas à n'importe quel prix, et pas à n'importe comment. Je pense que ça, c'est la leçon importante, et je pense qu'il y a plein de boîtes, on regarde les WeWork, les Square, tous les autres boîtes comme ça, les Uber. Et je pense que tout le monde va un peu vers cette tendance aujourd'hui.
Et toi, tu connais, tu as un réseau dans les startups françaises, notamment dans la food tech. Tu crois que cette évolution un peu de stratégie, peut-être un peu moins focalisée sur la croissance et plus sur la rentabilité, tu penses que ça sera aussi la décision d'autres entrepreneurs dans la tech qui vont peut-être favoriser une croissance plus lente, mais peut-être plus saine?
Je pense. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale. Il y aura toujours de l'hypercroissance et il en faut, et je pense que c'est important, parce qu'il y aura toujours des fonds qui seront prêts à investir et des gens qui seront prêts à investir. Néanmoins, je pense que là, il y a de plus en plus de, en tout cas avec les entrepreneurs avec lesquels je discute, une tendance de dire, voilà, un, il faut une mission derrière la boîte, et je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Nous, c'est cette création d'écosystèmes et de liens sociaux, mais ça peut être n'importe quoi. J'écoutais le podcast que vous avez fait avec Castali. Pareil, il y a une forte mission derrière, et je pense que c'est ces entreprises qui vont vraiment répondre aux attentes des consommateurs et des utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est il faut aussi trouver des nouveaux modes de travail, des nouvelles façons de travailler avec du remote, avec des équipes. Enfin, tout est à se réinventer, et ça peut être compatible avec de l'hypercroissance, mais arriver à un certain stade, en tout cas de maturité de boîte, où nous, on pense qu'on est arrivé après un peu plus de 4 ans. On pense qu'aujourd'hui, nous, là, notre mission entrepreneuriale, elle serait pas checkée, entre guillemets, si on n'était pas rentable. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, presque en tant qu'entrepreneur. C'est un peu égoïste, mais pour nous, quoi.
Merci Dimitri. On arrive à la fin quasiment du podcast. On a une question rituelle. Donc apparemment, t'en écoutes, donc tu dois la connaître. Enfin, surtout dans cette édition spéciale, on aime bien aborder un sujet plus personnel de notre invité. Et on aime savoir comment tu vis ce déconfinement, cette période un peu particulière. Est-ce que t'es confiné chez, enfin, est-ce que t'es encore chez toi? Est-ce que t'es complètement avec tes équipes? Est-ce que vous bossez encore en télétravail? Et est-ce que t'as des bons plans déconfinement à partager avec nous, avec nos auditeurs? Donc des choses que t'as découvertes dans cette période particulière, des contenus, des podcasts, des livres qui t'inspirent?
Alors moi je suis toujours chez moi. Je suis resté chez moi déconfiné. On n'a pas ouvert les bureaux encore. On va les ouvrir progressivement à partir du 15 juin. On travaille pas mal sur ce sujet de comment organiser. On a fait une enquête en interne et il se trouve que il y a un taux de satisfaction sur le travail en remote de plus de 90%. Ouais. Donc voilà. Après, certains ont envie de retourner au bureau, certains ont envie de retrouver un peu ce lien social même. Ouais, donc voilà, on va réorganiser ça, mais effectivement, je pense qu'il y a un gros équilibre à trouver. De savoir comment s'organiser. Il y a plein d'avantages à faire du remote, il y a plein d'inconvénients aussi. C'est dur de déconnecter, c'est dur de ne pas voir du monde, etc. On essaie de mettre plein de rituels en place. J'essaie de me aussi perdre plus personnellement. Bon, je me bloque du temps tous les jours pour faire du sport. J'ai la chance d'avoir un vélo que je peux accrocher chez moi et faire du vélo. Donc ça change la vie pour ceux qui veulent tester. mais sinon, voilà, en tout cas, je pense que j'ai quand même envie de commencer à ressortir, à aller au resto. C'est un des premiers trucs que j'ai envie de faire.
C'est pas pour tout de suite encore, mais bien ça va arriver, on espère.
Pas pour tout de suite. Après, moi je suis assez convaincu que l'expérience d'un resto, c'est pas forcément s'asseoir et manger. On peut avoir une expérience en y allant, en commandant, en discutant un peu de loin et en repartant manger autre part.
Avec son plat, exactement.
Franchement, je pense que justement ceux qui ont compris ça et ceux qui arriveront à faire une expérience, la même expérience qu'on a dans un resto, mais chez soi, là, il y a quelque chose de gagné.
Bah, Dimitri, merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. C'était très intéressant d'avoir un peu ton point de vue sur la situation. Et surtout, c'est que pour la première fois, on a quelqu'un dans ces podcasts qui a des informations, des données concrètes à partager avec nous. Et je pense que ça nous aide énormément à mieux comprendre la situation. Merci pour ta transparence et ta générosité avec tes données.
Avec plaisir, et, bientôt, et je vous partagerai les données à jour. Ouais.
Avec plaisir, merci. Super. Merci beaucoup, Dimitri.
Merci,
à bientôt,
au revoir.
Allez, merci beaucoup.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.